18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est une excellente chose, de 18h à 19h30. Voici le sommaire que je vous propose. Qu'est-ce que je vous ai concocté bien au programme de cette émission? Nous allons revenir, vous savez quoi, sur une histoire exceptionnelle. Un très beau film, je vous le dis, Divertimento. Eh bien, on va en parler dans une poignée de minutes, justement avec une invitée exceptionnelle. Je garde le suspense jusqu'au plus haut, puisque nous serons avec la principale personne concernée. Et puis tout à l'heure, à 18h20, nous irons nous intéresser à la situation en Syrie, puisqu'on sera avec un écrivain syrien, justement, et il a des nouvelles, toutes les dernières nouvelles, fraîches à nous communiquer ici sur notre antenne, parce que le séisme, évidemment, ici dans Les Informés, on en parle. La situation qui est complètement dramatique, hein, violent séisme, qui a causé extrêmement de morts et de blessés. Un désarroi complet, on va en parler tout à l'heure. Et puis, toute une série d'invités viendront se succéder ici même pour parler de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'était un peu le clash, hein, on peut le dire. Clochette, le passe-passe entre la NUPES, Renaissance, vous le verrez tout à l'heure, restez à l'écoute puisqu'on a quelques surprises à vous révéler. Et puis on parlera aussi, vous savez quoi, la mobilisation, de la grève qui continue de prendre de l'ampleur. Voilà le programme que je vous propose, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview du jour, c'est avec, aïe aïe aïe, celle que j'aime beaucoup, vous savez quoi? Elle est chef d'orchestre, elle est à l'initiative de, évidemment, elle dirige la chorale, l'école, évidemment d'une grande institution, elle va en parler mieux que moi, puisqu'elle est sous la direction d'orchestre du maestro, elle a été, enfin bref, je vais résumer tout ça en un mot, c'est son histoire avec ce film Divertimento, évidemment. Un film extrêmement passionnant. Et ben c'est Zaya Ziwani qui est en personne avec nous. Bonsoir Zaya Ziwani.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Vous savez que c'est un plaisir que vous soyez avec nous dans Les Informés.
Merci.
Vous le savez. Alors Zaya, on se connaît un peu quand même. Vous êtes chef d'orchestre française, issue de l'immigration. C'est une véritable fierté tout d'abord. Vous portez une responsabilité quand même. Hein.
Oui, en effet. Je suis chef d'orchestre. Alors, j'ai grandi dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis. Je m'appelle Zaya, donc c'est vrai que c'est pas un métier qu'on attend à cet endroit. Mais en effet, j'ai toujours voulu rêver de ça, de devenir chef d'orchestre. Et du coup, j'ai réalisé ce rêve. Et je me suis vite rendu compte aussi que mon parcours était singulier. Donc, ça m'a amené aussi à avoir une approche aussi différente et à développer des idées nouvelles, innovantes, engagées. Et c'est comme ça que j'ai créé mon orchestre qui s'appelle Divertimento, qui va fêter ses 25 ans cette année et qui permet aussi aujourd'hui de faire ma place dans le paysage musical et d'apporter plein de nouvelles idées.
Zaya Ziwani, justement, 25 ans. 25 ans, c'est un beau parcours. Quels sont les... Durant ces 25 ans, on ne va pas les refaire, mais quels sont les moments qui vous ont frappé durant ces 25 ans?
Écoutez, j'en ai beaucoup qui m'ont évidemment frappé. Après, ça a été un parcours, en effet, loin d'être un long fleuve tranquille. Alors, avec parfois des moments très enrichissants, très forts, et puis d'autres qui ont été beaucoup plus compliqués. Après, moi, je retiens en effet que c'est aussi un parcours, une histoire qui s'est construite avec des musiciens, avec des personnes aussi qui m'ont fait confiance, et beaucoup d'élus, notamment de collectivités dans des villes, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, beaucoup, qui ont cru beaucoup dans ce projet, des partenaires importants, des personnes aussi emblématiques comme notre président de l'orchestre Divertimento qui s'appelle Moral Chibout, qui nous a fait aussi le plaisir de nous rejoindre. Et c'est vrai que miser il y a 25 ans sur le fait qu'on dise et que moi je défende la place de la musique classique comme une culture populaire, exigeante mais populaire, qui pouvait être accessible à tous, c'était pas évident dans un milieu culturel qui a parfois tendance à être un peu renfermé dans ses traditions et qui a aussi parfois été frileux à vouloir développer cette musique dans différents quartiers. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu que je me batte, et encore aujourd'hui, pour expliquer que c'est une musique qui est belle et qui doit être accessible à tout le monde. Donc, moi, ce que je retiens, c'est des moments forts, en effet, comme des temps, comme le premier concert qu'on a fait à la Philharmonie de Paris en 2010, le premier grand concert qu'on a fait en Algérie, parce que j'avais mis en place une collaboration entre l'Algérie et la France. Et ça a été un très beau concert où 60 musiciens de l'orchestre.
Vous-même, de parents algériens, vous-même d'origine algérienne.
Exactement. Et donc, du coup, j'avais eu l'occasion de mettre en place une coopération et on a fait un super beau concert à Alger et puis ensuite à Paris, où justement, réunissant des musiciens français et algériens. Et puis voilà, il y a quelques mois de ça, en 2019 aussi, on a fait un grand concert pour fêter les 20 ans de l'orchestre. Donc il y a plein de beaux moments qui ont jalonné cette histoire, mais qui restent aussi pas toujours évidentes à écrire.
Tout ça, on va revenir évidemment sur ces moments. Il y a un film que j'ai vu, que j'ai trouvé extrêmement beau, magnifique. Vous savez quoi ? Vraiment, il m'a touché, il m'a ému parce que c'est aussi notre histoire. Vous savez, votre film, là, le film qui retrace votre parcours, Zaya, c'est aussi le parcours de comment dirais-je, de tous celles et ceux qui sont issus des quartiers populaires. Vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait. Et en effet, c'est vrai que même s'il parle de mon histoire... À proprement parler, c'est aussi l'histoire d'une famille dans une ville de Seine-Saint-Denis, dans un quartier populaire, issu de l'immigration, de jeunes qui ont envie de réussir. Et je pense que, qu'on soit un jeune, qu'on soit une personne issue de la diversité, des quartiers populaires, milieu rural, une femme, on peut s'identifier parce que c'est le parcours de beaucoup de gens qui demandent simplement juste à être vus et reconnus pour leurs qualités et pas en fonction de leurs origines.
Oui.
Ça montre aussi les...
Ça montre la niaque aussi, par laquelle vous êtes animé.
Et ça montre, voilà.
C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, ce film, il m'a pris aux tripes, parce que vous dites dans le film, il dit, parce que son rêve de diriger un orchestre était plus fort que tout. Et c'est vrai, ça. Quand on a la niaque, rien ne vous arrête.
Exactement, et c'est de montrer qu'en fait, y a du potentiel partout, et que quand on veut, en fait, avec le travail, on arrive à des résultats, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui, tous les jours, de faire. Et de
vous avez toujours cru en vous, Zaya Ziwani?
Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai jamais douté de moi, ça c'est vrai, et c'est important aussi de se faire confiance, et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye aussi de partager avec les jeunes que je rencontre tous les jours, en milieu urbain, en milieu rural, de leur dire, vous avez un potentiel, ne laissez personne d'autre vous faire croire le contraire, et par contre, il faut croire en soi, et surtout, il faut aussi beaucoup travailler, et c'est pour ça que c'est un film qui est aussi très pédagogique, parce qu'il permet aussi à beaucoup de jeunes d'espérer, et de dire qu'on peut tous réussir, et qu'on peut tous rêver.
En un mot, l'espoir.
Tout à fait, exactement.
Et voyez, écoutez un extrait, justement, Anthony, notre réalisateur, a pu retrouver l'extrait de Divertimento, le film consacré justement à votre propre histoire, Zaya Ziwani, justement avec votre sœur à vos côtés, me semble-t-il, votre sœur jumelle.
Exactement, donc en fait, j'ai une sœur jumelle, Fethouma, et en effet, qui partage aussi ce beau parcours et cette réussite à mes côtés. Et c'est vrai qu'on a grandi ensemble, on a fait de la musique ensemble, elle est violoncelliste aujourd'hui, elle mène une très belle carrière également. Et je pense que c'est aussi en effet le fruit d'un gros travail, mais ce qui est très beau aussi dans ce film, c'est que ça parle également des valeurs de la famille et de montrer comment une personne qui a un destin original et singulier, on ne réussit pas tout seul, mais c'est l'entourage aussi. Voilà.
Écoutons justement la BA, la bande-annonce. Écoutons.
Quel est votre instrument ?
L'alto, maître. Mais je veux être chef.
Être chef, c'est pas un métier de femme.
Fethouma et Zaya Ziwani.
C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours ?
Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis.
La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1.
Et donc tu te mets sur ton 3-1, mais t'as même pas de baguette, c'est ça ?
Là, vous pressez un petit peu trop.
T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule ?
Toi, il te faut ton orchestre. Il te faut un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante.
L'orchestre symphonique ? Mais attends, Zaya, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet ?
C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans.
On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente.
Tu l'as jamais, toi.
Voici des musiciens du conservatoire de Stein.
Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça.
Eh oui, en banlieue, on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination.
Non, ils vont pas te piquer ta flûte.
Divertimento, le film qu'il faut aller voir de toute urgence. Je vous le dis, les amis auditeurs, partout en France. Si vous nous écoutez, c'est un film qu'il faut aller voir de Marie Castille, justement. Ça, c'est bien ça, hein. Marie Castille, c'est elle qui l'a, évidemment, Char. Hein. Et Clara Bourreau.
Marie Castille, mention Char, qui a réalisé les films, qui a également écrit le scénario avec Clara Bourreau. Et c'est vrai que c'était aussi une belle rencontre parce que, il faut aussi le rappeler, c'est une femme, aussi réalisatrice, qui a décidé de faire un film sur mon parcours aussi de femme. Et c'est important dans une année où, par exemple,
Ça a tout de suite matché entre vous ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça a du sens parce que c'est important de montrer que. Et c'est ça aussi, au moins quand j'étais jeune, j'avais du mal à me projeter parce que je voyais pas de femme chef d'orchestre. De voir une femme réalisatrice, une femme chef d'orchestre, c'est important en termes de symbole et permettre aussi aux jeunes de se projeter. Et après, oui, pour moi, c'était important dans cette rencontre que j'ai eue avec elle, qu'on voit aussi mon parcours, mais de façon juste et belle, parce que voilà, même si j'ai grandi dans un quartier de Seine-Saint-Denis, je voulais pas qu'on voit toujours comme d'habitude sous l'angle de la délinquance, de l'insécurité, de la violence, parce que évidemment que y a des réalités qui sont pas toujours faciles. Mais moi, c'était aussi, j'ai aussi grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de solidarité, de tolérance, de vivre ensemble avec des parents qui avaient des belles valeurs aussi à transmettre. Et je voulais que ça soit aussi cette réalité de la banlieue qu'on puisse montrer. Et que le reste n'avait pas forcément sa place.
Alors justement, Zaya,
la dureté de la vie, c'était plutôt dans le regard que je voyais des autres, oui. Pas forcément dans l'insécurité à laquelle on peut penser obligatoirement. En fait.
Zaya Zohani, justement, parlons-en. Vous dites que provoquer cet espoir, ce rêve, justement dans les quartiers populaires. Vous-même, vous venez de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, vous le savez, c'est que dans notre société, les choses sont de plus en plus compliquées, y compris quand on vient des quartiers populaires. Est-ce qu'il manque encore ce paramètre? Et votre film vient justement au bon moment pour nous dire que le rêve est encore possible. Donc, quand vous vous adressez aux quartiers populaires, vous leur dites quoi aujourd'hui? Que tout est possible encore?
Bien sûr que tout est possible. Alors après, évidemment, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous renvoient tous les jours qu'il y a des inégalités. On le voit, on l'a vu particulièrement pendant la crise sanitaire, que ça a mis en lumière des inégalités qui existent depuis longtemps sur l'accès aux soins, aux transports. Et la culture et à l'éducation nationale, et la culture fait partie de ces sujets qui sont très inégalitaires. Donc c'est important de montrer, et moi c'est pour ça que je me bats tous les jours pour que cette musique classique elle ait sa place partout. Et moi j'ai envie de dire qu'il faut aussi revendiquer, dire qu'on a aussi le droit à tout ça, et notamment aussi à la culture, et puis surtout dire aux jeunes qu'ils peuvent rêver, ouais. parce que c'est possible, et qu'après derrière ça demande aussi de beaucoup travailler, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de talents dans le sport, dans la culture, qui viennent des banlieues, et on peut s'autoriser toutes les ambitions à partir du moment où on se donne les moyens d'y rêver d'une part et de travailler pour.
Des pots de banane, vous en avez pris régulièrement, justement.
Oui, tout à fait.
Vous, quand vous êtes femme, issue de l'immigration, quand on vient des quartiers populaires, quels sont les éléments aujourd'hui justement qui vous ont surpassé ça, encouragé encore plus davantage? Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là, Zaya?
Moi, j'avais envie que d'une chose, c'était de prouver, non pas par l'agressivité, mais en prouvant dans les faits qu'en fait, les personnes se trompaient. Et je pense que c'est ce que ça montre aussi dans le film, qu'on n'est pas, qu'on pense pas qu'on peut régler les choses que par l'agressivité et la violence, comme parfois que les gens ont cette image de la banlieue, mais que c'était par les idées, par l'engagement, par le travail. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais c'est pas fait pour toi », la musique n'a pas sa place en banlieue, l'orchestre n'a pas à avoir une femme dirigée, à être dirigée par une femme, et j'ai toujours voulu montrer le contraire. Et aujourd'hui, je pense que même si l'orchestre Divertimento, on est peut-être un petit poussé par rapport à tous les grands orchestres nationaux et internationaux, malgré tout, on a une place de premier plan, parce que je pense que j'ai réussi aussi à montrer que, d'ailleurs, dans la bande-annonce, il y a marqué, il y a une réplique qui dit « on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination ». Cette imagination-là, ces idées-là montrent que en effet, on a un regard différent, et moi je pense qu'aujourd'hui je propose aussi un format de l'orchestre du 21e siècle qui est ouvert sur les publics, qui est ouvert sur plein de sujets. Mmh. Aujourd'hui, j'adore traiter la question du sport, la question du handicap, la question qu'est-ce que c'est de l'identité nationale, c'est quoi d'être français, justement par des concerts symphoniques avec un propos, avec justement des idées que j'ai envie de partager au public et de montrer que la musique classique, c'est pas qu'un regard vers le passé, mais c'est quelque chose de très actuel, avec de la beauté, avec de l'énergie, et en étant en lien avec toutes les tranches d'âge, avec toutes les diversités sociales, culturelles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui...
C'est vrai que vous avez toujours été animé. Quand on regarde le film qui est incarné justement par Oulaya Mamra, qui l'incarne bien d'ailleurs, votre histoire.
Oui, tout à fait.
Vous le faites vivre, bien. Justement, vous. C'est votre ADN, le vivre ensemble.
Exactement, et je pense que moi-même, quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi mes parents, qui étaient pourtant des gens très curieux et très ouverts, nous emmenaient tout le temps voir des concerts dans les grandes salles à Paris, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'il n'y avait que ça qui existait. Et moi, je vivais déjà ça comme une injustice de me dire, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit à la même chose dans la ville où j'ai grandi, dans la ville où j'habite, dans le département où j'habite? Et la première grande décision que j'ai prise en créant Divertimento, ça a été de dire, et bon, voilà, à l'installer à ça en Seine-Saint-Denis, et en montrant que cette musique, elle a sa place. Et même si j'ai beaucoup entendu, les gens de la Seine-Saint-Denis n'apprécieront pas la musique, c'est pas une musique qui est faite pour eux, et je me suis toujours dit que c'était très injuste de décider à la place des autres. Et justement, cet engagement, je le fais vivre encore aujourd'hui.
Zaya, justement, d'une phrase, quels sont les projets à venir, rapidement, s'il vous plaît, avant de lancer la pub?
Oui, écoutez, c'est de continuer à développer justement cet accès à la musique, c'est de préparer des grands projets justement autour de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques, et puis surtout, j'ai envie de dire, de continuer à faire vivre la musique. Et donc, je serais ravie que les auditeurs de Beurre FM puissent venir aussi en concert et partager des beaux moments de musique.
Et aller voir le film.
Et aller voir le film surtout. Alors parce que Divertimento, il faut aller voir Divertimento au cinéma et aller voir Divertimento dans les salles de concert.
Exactement. Vous avez juste d'une phrase, parce que moi je suis fier de ça, la distinction, vous êtes officière de l'Ordre National du Mérite.
Oui.
Ça c'est beau ça. Vous le dédiez à qui précisément ?
Franchement, je le dédie à tout le monde. Et justement, pour moi, c'est un peu cette distinction que j'ai envie de partager avec tous les publics, avec tous les partenaires, tous les musiciens. C'est une réussite collective et de montrer que justement, cette musique-là, le beau, on a tous droit au beau. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps de ça, Benzema, il disait « Ouais, c'est le ballon d'or du peuple ». Et pour moi, c'est la distinction de tout le monde parce qu'on est à tous droit et tout le monde a contribué pour que aussi j'y parvienne.
Zaya Ziwani, justement, bravo et respect pour votre parcours. Je vous le dis clairement.
Merci.
Que toute la France l'écoute, c'est très important. Zaya, si j'ai bien compris, il faut rien lâcher dans la vie.
Il faut rien lâcher, exactement. Il faut se battre. La vie est encore dure. Mais franchement, pour quand on gagne ces combats-là, ça vaut le coup de le faire. Et surtout pour offrir à nos enfants aussi de l'ambition, de rêver et puis d'avoir accès au beau surtout.
Zaya Ziwani, voilà. Justement chef merci. D'orchestre de renom. Et vous savez quoi, merci d'avoir été avec nous. Et surtout allez voir le film Divertimento de Marie Castille Mancio Chahar. Justement, merci Zaya et bon vent pour la suite.
Merci beaucoup, merci Beurre FM de votre invitation. Merci.
Avec plaisir. Allez, on marque la pause et on se retrouve tout de suite à Paris. Direction la Syrie, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Direction, vous savez quoi dans Les Informés justement ? Le séisme en Turquie, en Syrie, nous allons refaire un petit point justement, et c'est dans le cadre aussi d'une interview avec un écrivain, Adnan Azam, franco-syrien, écrivain, mais aussi ancien journaliste.
Les Informés, l'interview.
Bonsoir Adnan Azam.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, merci d'être avec nous justement. Alors, on parle aujourd'hui d'un un peu plus de 11 700 morts hein, aujourd'hui. Hein, ça dépasse hein, le bilan aujourd'hui. Vous confirmez ce bilan qui est terrible d'ailleurs, hein, avec ce désarroi aujourd'hui.
Ben, écoute Adil, moi je veux faire à tes auditeurs un bilan très très précis à 17h aujourd'hui en Syrie, grâce à mon interlocuteur, mon ami le journaliste Yarob Kherbek qui se trouve carrément dans les chantiers à Alep et il m'a fait le bilan très très précis sur la Syrie. On parle pas de la Turquie en même temps. Donc
oui, alors parlons-en justement et je vous en remercie infiniment Adnan Azar.
Absolument, pour que Azar, je puisse être crédible parce que les gens peuvent se renseigner après. Donc aujourd'hui on est à peu près à 1500 morts en Syrie, plus de 3000 disparus. Les recherches ils continuent, on n'a pas fini à sortir des vivants ou des morts d'ailleurs malheureusement dessous les eaux-combres. Les opérations elles sont extrêmement difficiles. Pourquoi difficiles? Parce qu'on a des destructions dans trois régions en Syrie, pas un seul. Entre Alep et Latakia, il y a des centaines de kilomètres. Donc il faut des plus de, si vraiment les opérations doivent se dérouler comme il faut, il a fallu plus de 500 unités de recherche. Et ça, c'est impossible de le trouver dans un pays qui subit depuis 11 ans de guerre et d'embargo. Donc les recherches ont continué. Et puis, ce qu'il m'a dit mon ami le journaliste syrien, oui. Yarob, Adnan, quand les gens, on le sort dessous le décombre, ils affrontent immédiatement un autre calvaire, le froid, le manque d'énergie, le manque de gasoil, le manque de mazout, le manque de nourriture. Donc, il y en a un qui a dit « Ah, j'aurais préféré rester là où j'étais ». Donc, c'est vraiment, c'est ça en fait. Aujourd'hui, l'aide humanitaire, elle est plus qu'indispensable. Oui. Et puis, l'aide à tout point de vue, et surtout quand on a, imagine que tu es en face d'un immeuble de 7 étages qui tombaient par terre, il a fallu il faut des matériels très costauds. Les matériels en Syrie aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on n'a pas été renouvelés, donc ils travaillent un petit peu, puis après ils tombent en panne. Mais il m'a dit également, la seule chose positive dans tout ça, on voit des milliers et des milliers de Syriens des étudiants, des femmes, des hommes qui sont vraiment en train de bûcher avec leurs mains pour aider les gens à sortir de ce calvaire.
Donc, il y a un sujet, vous savez quoi ? Pardonnez-moi de vous interrompre, Adnan Azam, une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est une petite fille, un bébé vivant a été donc sorti des décombres d'un immeuble par les secouristes.
Exactement, exactement.
Il était encore relié par le cordon ombilical justement à sa mère.
Absolument.
Et il est surnommé sur les vidéos des réseaux sociaux la miraculée de Jean Deris.
C'est ça en fait, ce vidéo-là, je pense qu'il a fait le tour de la planète et puis ça donne le titre de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Donc un véritable calvaire qui appelle à la communauté internationale de réagir. Parmi les gens qui sont arrivés en Syrie aujourd'hui d'une manière très très précise, la Russie, l'Iran, l'Algérie, le premier arrivant c'était l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Liban. C'est uniquement 6 pays sur les centaines de pays dans le monde qui sont arrivés sur place.
Oui.
Aujourd'hui, on attend un espoir qui est la France. Enfin, la France décide de dépêcher d'aide humanitaire vers la Syrie. Et surtout, on a lu aujourd'hui dans la presse...
Vous êtes en train de nous dire, Adnan Azam, que c'est le moment, justement, d'ouvrir le dialogue entre la France et la Syrie.
Plus que jamais, un de vos confrères journalistes, qui est très connu d'ailleurs, il a écrit un article aujourd'hui dans le Figaro, en disant que peut-être le président Emmanuel Macron... Tenté par le reprise de dialogue avec le président.
Ça, c'est le journaliste Malbruno, hein.
Georges Malbruno, exactement.
Le grand reporter, effectivement.
Donc, il faut. Je souhaite pouvoir l'interviewer pour savoir d'où il a eu cette information. Est-ce que c'est une analyse journalistique ou c'est vraiment une information? Et puis, il y a la Croix-Rouge. Attendez, le plus important, la Croix-Rouge en France également a fait un communiqué pour pouvoir briser l'embargo et partir en Syrie. Donc voilà ce que
Après évidemment. Merci pour ces précieuses dernières nouvelles, Adnan Azam, vous écrivain franco-syrien, ancien journaliste aussi notamment. Adnan Azam, qu'est-ce que vous lancez comme appel sur notre antenne de nouveau encore?
Très concrètement, je vais essayer de parler doucement parce que je parle en fait. Pardonne-moi, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est pour ça. Je vais essayer de reprendre mon souffle, de dire Française, Français, gouvernement français, président de la République, c'est le moment ou jamais de tourner la page. C'est le moment ou jamais de dire nous partons à Damas, sur le chemin de Damas, le chemin de la fraternité, de l'humanité, et car les Français, ce qu'on aime chez les Français, c'est ça. Et il ne faut pas le laisser tomber. Ces qualités pour lesquels nous sommes venus en France.
Merci. Vous, Adnan Azam, franco-syrien, écrivain, ancien journaliste, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir fait le point sur les dernières nouvelles concernant en Syrie. D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, n'hésitez pas, vous avez l'antenne ouverte en permanence, vous êtes le bienvenu évidemment, mon cher Adnan Azam. Voilà.
Merci Berafam, merci Adil Farkani et merci Nasser Kattan, merci à vous tous.
Merci à vous tous et surtout merci à évidemment Forte Mobilisation, 18h30 pour l'heure, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec le maestro, et le professeur Majid Soussine, le docteur Majid Soussine. Comment ça va?
Bonjour Adil, ça va être difficile de se goberger alors qu'on vient d'entendre les drames qui se passent en Syrie et en Turquie.
Vous avez entendu, vous connaissez, vous, hein, vous êtes déjà intervenu dans une situation extrêmement, évidemment, terrible, pénible, où le désarroi bat son comble. Vous êtes déjà intervenu, vous, en tant que médecin, justement, dans cette situation. C'est compliqué, mon cher docteur Majid Soussine, hein ?
Ah, tout à fait. On a surtout dans des pays où les moyens sont beaucoup plus faibles que ceux dont on dispose ici, dans des pays en guerre, comme c'est le cas de la Syrie, ou dans des régions isolées, c'est très difficile de faire parvenir les secours. Et malheureusement, on sait qu'il y a des gens qui sont encore vivants et qui vont mourir très rapidement parce qu'on ne pourra pas les secourir.
C'est parti pour votre billet d'humeur comme chaque mercredi. C'est Julien Bayou, c'est Sandrine Rousseau, c'est l'énergie, c'est tout simplement tout ça avec ce cocktail un peu que vous avez l'habitude évidemment sur lequel vous avez l'habitude de nous embarquer. Eh bien, on vous écoute, à vous la parole.
Eh bien, mon cher Adil, je suis assez heureux pour vous car je viens d'apprendre que vous bénéficiez des résultats record de Total qui vient d'engranger 19 milliards d'euros. Dans 19 milliards d'euros dans un pays où il n'y a pas ou peu de pétrole, ni de gisement de gaz réellement productif. Et en tant qu'actionnaire non négligeable du groupe, vous toucherez sans doute votre quote-part. Et cela ne vous inquiète même pas, car il n'y aura pas d'impôt sur les super profits. À moins que d'ici là, cela ne change. Nous avons bien vu que nos politiques sont désormais des girouettes qui pensent une chose un jour et le contraire le lendemain, en fonction de la température de la marbrouse des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Edgar Faure l'avait très bien dit, le président radical de l'Assemblée, dans une citation qui est devenue fameuse, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Ces super profits ont même choqué Joe Biden, qui devant les 200 milliards de dollars engrangés par les compagnies pétrolières, qui elles, au contrario, exploitent des gisements nationaux, propose un impôt supplémentaire pour que ces bénéfices soient réinvestis dans l'économie américaine. À méditer peut-être pour suivre un exemple qui serait bienvenu dans notre pays où l'amertume face aux écarts de richesse peut conduire au pire. Il y en a une qui devrait se révolter et qui est tout d'un coup bien silencieuse. C'est notre chère, notre bien chère Sandrine Rousseau.
Il est bon.
Qui s'est voulu le maître étalon de ce qui est juge, de ce qui est bien, notre morale, notre conscience, et qui a cherché à nous faire oublier, alors qu'elle est élue de la nation, que le tribunal, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les médias, et ce n'est pas dirigé par un grand inquisiteur, mais plutôt par un magistrat. Et vous l'avez compris, Adil, je fais référence à l'affaire Julien Bayou, qui vient de faire un lamentable pchit après qu'on ait dit les pires cochonneries sur cet homme, sans qu'il n'y ait eu de preuves, sans que cette fameuse commission d'enquête chez les Verts n'ait entendu quiconque. Tout cela, tout est si bien qu'aujourd'hui, on le fait réintégrer son groupe et sa mise à l'écart décidée par de dangereuses furies cesse sans autre forme de procès. J'espère au moins que l'on s'en souviendra la prochaine fois qu'une de ces personnes qui sait tout et ne doute jamais va ouvrir la bouche, et je voudrais qu'on s'en rappelle. Et je tiens aussi pour finir à vous raconter mon hallucination que j'ai eue ce matin en sortant des Invalides. Je vois des tracteurs défiler en plein Paris.
Ça c'est vrai.
Je me suis pincé pour me rendre compte que finalement c'était bien vrai et qu'en fait des agriculteurs défilaient contre les...
Je confirme.
L'interdiction des néonicotinoïdes, qui sont, Adil, vous qui êtes parfois un peu naïf, ce n'est pas une nouvelle forme de chicha, de néonicotinoïdes.
Clochette Naméo
C'est un produit redoutable. Redoutable, évidemment, on pourrait d'emblée se dire que ces gens-là sont des assassins, des barbares, et faire sa Sandrine Rousseau. Mais ce serait quand même oublier que ce sont en fait eux qui nous nourrissent, et que s'ils disparaissent peu à peu, bientôt nous n'aurons plus rien à manger, dans une indifférence qui sera coupable, mais peut-être nous pourrions regretter cette indifférence un jour.
Oh là là, bravo mon cher docteur Majid Soussina. Toujours un plaisir, vous savez, et vos éditos, vos billets, votre quoi de neuf, c'est toujours un plaisir, comme chaque mercredi. Comment s'annonce la semaine?
Bon, écoutez, laborieuse comme de coutume.
Bah bon courage.
Nous aspirons à travailler, mon cher.
Eh bah bon courage et prenez soin de vous. À mercredi prochain sans faute, le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Voilà, c'était le quoi de neuf. On marque une courte pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec notamment. Et j'accueille Jimmy Dalidou, le représentant CGT. Bonsoir, Jimmy Dalidou.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Ça va.
Eh bien, nous allons parler de grève, de réforme. Nous allons parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée, parce qu'il s'en est passé des choses.
Tout à fait.
Et une série d'invités, notamment par téléphone. On y va?
On y va.
Pub. Parti. Et tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Non, Les Informés, justement 18h40, et nous allons vous apporter tout l'éclairage possible concernant cette réforme des retraites, les passes clash au sein de l'hémicycle cet après-midi. Oui, c'était bien animé, très animé même d'ailleurs. Allez, 18h40, vous savez quoi? Je vais accueillir, il y a Jimmy Dalidou que je resalue, à qui je dis bonsoir.
Rebonsoir.
Qui est sur le plateau, représentant CGT, auteur, comment ça va?
Bah ça va, ouais. Ça va, ça bouge. Sur le plan social, c'est électrisant, c'est le top. Bon. Les gens sont motivés, le top.
Bah écoutez, vous savez, je vais accueillir tout de suite pour en parler de cette réforme des retraites, notamment le débat qui s'est installé, ça y est, hein, et puis notamment les différents points de vue et les clashs, parce que ça a été tumultueux hein, au sein de l'hémicycle cet après-midi. Hakim Elouli, le maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Bonsoir Hakim Elouli.
Bonsoir Adil, bonsoir. Je sais que Jimmy l'a dit, Jimmy doit être comme un fou là avec la période, parce qu'on est dans les luttes sociales et c'est, je crois, des bonnes périodes. Hein. Et donc je sais que Jimmy doit être tout excité là, non ?
C'est motivant.
C'est motivant, voilà, il est tout motivant effectivement. Hakim Elouli, j'aimerais d'abord vous faire réagir sur une. Au sein de l'hémicycle, il y a évidemment plusieurs déclarations cet après-midi, mais il y a celle de l'ancienne ministre de la Ville, qui est députée de Renaissance, députée des Yvelines. C'est Madame Nadia Hay. Ça s'est passé cet après-midi au sein de l'hémicycle. Écoutez, Hakim Elouli.
Et je tiens juste à rappeler ici que nous sommes en déconnexion totale de nos quartiers populaires. Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message ? Que le travail, c'est pénible, que la valeur travail... C'est...
Je reprends juste le direct avec les Mélouli, pardonnez-moi. Je veux qu'on reprenne depuis oui. Donc sa déclaration, depuis évidemment le début de la phrase. Là, non mais écoutez, là, je voudrais juste comme pas. Ça, je vais vous faire réagir. Oui. S'il vous plaît, monsieur Hakim Mélouli, écoutez monsieur le maire adjoint, écoutez.
Je dois... peut-être rectifier certaines choses qui ont été dites. Notre groupe, je vous le rassure à toutes et tous, ne fuit pas le débat. Nous voulons parler des entreprises, monsieur Lucas, de l'imposition des entreprises de l'ISF. Mais la PPL des socialistes sur la contribution des entreprises a été retirée. Mais nous nous faisions une joie, nous, de vous exposer nos arguments encore et encore et notre vision aussi économique et politique de cette situation. Nous ne fuyons pas aussi le débat sur la pénibilité, mes chers collègues, mais c'est à l'article 9, ça a été dit et redit. Donc pourquoi tourner autour du pot, aller dans la course à la démagogie à travers l'ensemble de vos amendements ? Avançons, retirez vos amendements, allons à l'article 9, parlons de la pénibilité et de l'usure professionnelle auxquelles sont confrontés nos concitoyens. Nous avons envie de débattre contrairement à vous. De quoi avez-vous peur ? Et je tiens juste à rappeler ici que nous sommes en déconnexion totale de nos quartiers populaires. Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message ? Que le travail, c'est pénible, que la valeur travail, c'est mal, que la RATP, allez, travaille à la RATP, c'est un travail pénible. Alors ils demandent quoi, nos jeunes dans les quartiers ? C'est de trouver du travail. Allez leur parler. Et vous savez, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que vous êtes élus de ces quartiers-là et que vous ne les représentez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils... Vous ne savez pas ce qu'ils demandent. Vous ne connaissez pas leurs difficultés. Ils n'ont qu'une envie, c'est de travailler à la RATP. Et vous leur dites quoi ? N'y allez pas, c'est pénible. Mais revenez sur terre, mes chers collègues. Revenez sur terre et occupez-vous des intérêts de nos concitoyens.
C'était costaud cet après-midi au sein de l'hémicycle durant donc ces débats, oui, échanges sur la forme des retraites. Hakim Elouli, monsieur le maire adjoint.
Monsieur Adil, d'ailleurs, salut d'Alger, hein, où il fait un peu meilleur qu'en France. Adil, je crois que la démagogie, c'est elle qui l'a fait. Je crois qu'elle connaît pas du tout les quartiers. Les quartiers, ils ont pas tous envie. Ils ont envie de bosser à la RATP, mais avec le régime qu'il y avait avant, pas avec au rabais. Le problème, c'est qu'elle a, justement, elle connaît pas les quartiers. Aujourd'hui, à la RATP...
Mais elle vient de Trappes. Elle connaît les quartiers puisqu'elle est de Trappes elle-même.
Non, mais Adil, vous savez très bien qu'on peut venir et ne pas connaître les quartiers ou ne plus les défendre parce qu'on nous a donné un os à ronger.
Y compris, ça, sérieux. Bah, elle a géré comme un portefeuille, ministre de la ville.
Oui, ben justement, on dirait pas, parce que quand elle parle d'usure, de l'usure, et elle veut encore les user davantage, les gens, ils ont pas envie de venir. Bien sûr que les métiers sont pénibles. Qu'est-ce qu'elle mélange entre la valeur travail? Les gens, ils ont envie d'un travail. Un travail, c'est pas de l'esclavage non plus, Adil. Donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Mmh. Moi, je vais te dire, les gens ont raison. Les débats sont à la hauteur de l'enjeu. Elle dit, retirez vos amendements à l'équipe pour donner des leçons à tout le monde. Elle dit qu'elle veut débattre, mais elle veut que les gens retirent leurs amendements. Elle fait que des contradictions dans son intervention. Donc, revenons un peu de sérieux. La retraite à 64 ans, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que déjà 62 ans, c'est dur. Et d'ailleurs, mécaniquement, elle va monter à 63 déjà avec la réforme qui a
été faite. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, la NUPES, avec le Parti Socialiste, tout ça ? Qu'est-ce que vous cherchez justement au sein de l'hémicycle ? On cherche quoi ? À provoquer le débat ou comme disent certains, à mettre le bordel ?
Le débat. Mais attendez, non, mais Adil, vous ne pouvez pas dire qu'on met le bordel. Les syndicats mettent le bordel. Tous les syndicats ne sont pas d'accord et elle dit que personne ne comprend. En fait, il n'y a qu'eux qui comprennent leur réforme et nous, on n'aurait pas compris. On a très bien compris. Les Français ont très bien compris. Plus ils expliquent, plus les gens ont compris que c'était pour avantager la finance, parce qu'il y a quand même la retraite, effectivement, ils parlent de répartition.
Mais là, on est dans la provocation en permanence, si vous permettez, monsieur le maire adjoint. Là, c'est des tacles contre tacles, clash contre clash.
Qui a fait de la provocation ? Qui a dit, je veux bien dialoguer, mais la retraite sera à 64 ans ? Quand vous dites à quelqu'un, viens dialoguer, mais c'est comme ça, il est où le dialogue ? Qui provoque qui ? C'est ça la vraie question. Moi, je trouve qu'effectivement, cette façon de créer du dialogue social, n'est pas, c'est pas du dialogue social. Si moi je te dis, Adil, viens, on va créer un truc, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, toi-même, tu vas me dire, mais Akli, excuse-moi, mais on fait ensemble ou c'est toi qui me dis les choses? Donc on ne peut pas dire aux gens, on va dialoguer, mais la retraite, 64 ans. Le reste, vous pouvez vous amuser. C'est comme si moi, on est en train de dire aux gens, en fait, on dit aux gens sur quoi ils peuvent débattre ou sur quoi ils ne peuvent pas débattre. Ou on en débat totalement, ou on débat de rien. Et donc là, effectivement, en mettant cette date et truc, et en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien, les gens lui disent non. Et franchement, Adil, 2 ans de plus, c'est énorme. C'est énorme. Les gens sont usés. 2 ans de plus, vous avez 5 ou 6 ans de bien à peu près quand vous êtes en retraite. 2 ans de plus, ça veut dire que les gens, ils auront 3 ou 4 ans, et après, ils seront malades, ils seront fatigués. En fait, toute une vie, plus de 40 ans de labeur. N'oubliez pas, c'est quand même plus de 40 ans, même à la retraite de 60 ans, c'est plus de 40 ans de labeur pour certaines personnes. Plus de 40 ans à trimer, et vous n'avez même pas le droit à 5 ou 6 années, où vous pouvez encore ne pas avoir de problème de santé, alors que même des gens les ont, certains cas les ont avant, et pour pouvoir au moins profiter un peu de cette retraite, c'est pas quand même un droit, ça. C'est pas un minimum, c'est pas de la dignité humaine, ça. À qui on parle?
À Jimmy Loulis, monsieur le maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Monsieur le maire adjoint, justement, Jimmy Dalidou, je voudrais juste le faire réagir, le représentant CGT. Quand vous entendez ça, vous réagissez, vous dites quoi?
Alors, par rapport à ce qu'elle a dit la députée? Moi, je suis. Oui, il y a beaucoup de démagogie, comme le disait Akli, effectivement. Alors, c'est dans on remarque, ça fait plusieurs décennies que le peuple français, surtout le peuple travailleur, remarque que ça crie beaucoup, ça gueule beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de choix, en tout cas de choix positifs et qui s'orienteraient vers une amélioration des conditions d'existence du peuple travailleur et de la majorité des Français. Akli l'a très bien, très justement dit. Ils veulent faire passer une réforme qui est, qu'on pourrait appeler la réforme mère. Alors pourquoi la réforme des retraites, on l'appelle la réforme mère? Tout simplement parce que pour produire, on touche au temps de travail. On touche au temps de travail, temps de travail de la nation. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent, vous l'avez en faisant travailler. C'est le temps de travail. Le temps de travail exploité par les forces dominantes de la nation. Les forces dominantes de la nation veulent augmenter le temps de travail de la force de travail française. Ils veulent que les Français travaillent plus, alors que dans le même temps, vous avez une classe sociale ultra minoritaire qui représente 1%, qui partage les richesses de ce monde et les richesses de France aussi, et qui s'enrichissent toujours plus.
Akli Mellouli, parce que je sais que le temps est précieux, je vais vous libérer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, si j'ai bien compris, cette forme de retraite, de toute façon, Elisabeth Borne, elle provoque, elle va chercher la majorité au sein des Républicains. Alors, vous, la NUPES, le PS aussi, vous répondez quoi? Comment voyez-vous les choses à terme, là? Parce que ce débat, il est entamé maintenant, désormais.
Non, mais attendez. D'abord, la NUPES, elle a effectivement, déjà, moi je suis dans le dialogue social. Moi, je suis un vrai réformiste, pas un réformard ou un mec qui bricole. Moi, je pense que d'abord, les syndicats, moi, je m'appuie sur ce que disent les syndicats. Moi, je suis en total soutien, je peux y avoir des accords, mais là, quand vous avez l'union syndicale, l'union sacrée des syndicats, et on les critique des fois, mais là, il faut les reconnaître ça, qu'il a réussi ça, ou Macron. Eh bien, je ne vois pas comment des gens qui sont de gauche, humanistes, qui se battent pour la dignité humaine, ne peuvent pas se ranger aux côtés des hommes et des femmes de France qui se battent pour leur dignité. Eh bien, la NUPES doit soutenir ce mouvement. Elle ne doit pas essayer de le récupérer, etc. Parce que c'est 12 heures qu'on fait en politique. En politique, on est obligé. Le dialogue social, vous savez ce que c'est? La social-démocratie, normalement, c'est le dialogue entre les forces vives de la nation. C'est ça le vrai déjà. C'est-à-dire qu'on fait avec la nation, on fait avec les syndicats, on fait avec les gens. Eh bien, aujourd'hui, nous devons accompagner les syndicats. Nous devons accompagner les syndicats et non pas essayer de récupérer. Merci. Et nous devons mener le combat à l'Assemblée parce que les syndicats, eh bien, aussi, n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Certains sont syndicalistes et tout, mais ils ne peuvent pas parler en tant que tels. Eh bien, ils ont besoin d'hommes et de femmes qui parlent en leur nom, qui parlent au nom du peuple français, qui en a marre que toujours les réformes se font sur leur dos et que c'est toujours eux qui se serrent la ceinture.
Merci Akli Mellouli d'avoir été avec nous, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, et au plaisir de vous retrouver. Merci Akli.
Merci Adil. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt, 18h49. Jimmy Dalidou, je reviens vers vous. Je veux juste qu'on s'adresse aux Gilets jaunes, parce que c'est aussi ces fortes mobilisations. On a, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Gilets jaunes et on a fait appel aux Gilets jaunes. Fawzi Lelouch, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, Fawzi. Très bien, merci beaucoup. Fawzi Lelouch, que vous connaissez désormais, qui vient de débattre de temps en temps ici, évidemment, dans Les Informés. Fawzi Lelouch, figure emblématique des Gilets jaunes. On a souvent dit, il y a Jimmy Dalidou qui vous salue, le représentant CGT qui est sur le plateau.
Je l'embrasse, Jimmy.
Fawzi Lelouch, une question que je vous pose. Les syndicats ont souvent sollicité l'appui pour une forte mobilisation samedi prochain des Gilets jaunes. Vous leur répondez, vous dites quoi ?
Je dis que, évidemment, qu'ils vont faire appel aux Gilets jaunes. C'est toujours le même reproche. Et pourquoi eux, ils ne nous ont pas suivis ? Ben, heureusement, on pense pas pareil. Ben,
c'est
voilà,
ça.
Ils ne nous ont jamais suivis, mais nous, on a toujours été là. On a toujours été là. Et j'écoutais Hakim, là, qui est adjoint.
Hakim Mellouli.
Ah, c'est Hakim, d'accord. Quand il dit que ça serait bien que les dirigeants syndicats se retrouvent à l'Assemblée nationale pour expliquer un petit peu les difficultés des travailleurs, pourquoi il n'y aurait pas aussi des citoyens, étant donné que, franchement, on est très déçus. C'est ce qui nous a fait sortir depuis maintenant presque 4-5 ans dans la rue. Et on est déçus aussi de la représentativité politique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les députés, quand ils sont élus, ne nous représentent vraiment pas. Et on attend toujours des réponses et des avancées, qu'elles soient sociales ou économiques, ou quelque chose qui est dans nos attentes, dans notre quotidien. Et on est toujours déçus. On peut représenter. Pourquoi il n'y aurait pas aussi, dans ce cas-là, si c'est la maison du peuple, il n'y aurait pas aussi des citoyens qui soient reçus régulièrement, qui expliquent le problème. En tout cas, les Gilets jaunes n'ont jamais été reçus pour pouvoir interagir sur les décisions avec les élus.
Voilà, Fawzi Lelouch, si vous permettez, il y a Jimmy Delidou, on vous fait le grief là clairement, que vous les avez, vous n'avez pas été là justement pour les soutenir, les Gilets jaunes, au moment où ils vous ont sollicité. Vous dites quoi à Fawzi Lelouch ce soir ?
Oui, non, je dirais Fawzi que ça dépend à quel niveau on se place. C'est au niveau individuellement parlant, là, beaucoup de syndicalistes étaient avec les Gilets jaunes, étaient dans la rue. Moi-même, j'allais avec certains de mes camarades et on y était quasiment tous les samedis. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est que.
Tu sais bien,
Fawzi, il y avait beaucoup de syndicalistes qui étaient dans la rue avec vous et qui n'ont pas attendu le feu vert de Martinez ou les autres. Après, le problème qui s'est posé, c'est que la direction syndicale, tu sais bien que la direction syndicale, moi je m'en suis jamais caché, on connaît sa position sociale, on sait que la direction syndicale, malheureusement, elle est un peu proche du patronat, et avec les Gilets jaunes, la gilets jaunisation de la France, de l'Europe, parce que c'était une gilets jaunisation de l'Europe, les centrales syndicales n'ont pas clairement appelé à rejoindre les Gilets jaunes, parce que ça devenait un véritable problème politique, et tu sais bien. Mais ça ne veut pas dire que dans le même temps que les véritables syndicalistes de la lutte des classes n'étaient pas là. On était là tous les samedis. Maintenant, effectivement, la petite critique que j'apporterais, moi je l'ai remarqué quand j'étais par exemple dans les AG à Montreuil, c'est qu'il y avait un côté anti-autoritaire chez les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait des discussions, des débats, mais les GJ ne voulaient pas de leader, ils ne voulaient pas de... Et malheureusement, vous connaissez comment ça se passe. Vous mettez 100 mecs dans une salle, vous avez forcément et naturellement des leaders qui se font naturellement. Et ça, les Gilets jaunes, ils avaient un côté anti-autoritaire et qui, ma foi, n'a pas été constructif.
Fawzi Lelouch ?
Oui, je dirais qu'effectivement, il y a eu beaucoup de syndiqués qui ont pris l'initiative d'eux-mêmes de participer à toutes les mobilisations qu'il y a eu des Gilets jaunes. Et ce qui est dommage, c'est que les cadres n'aient pas appelé fortement à nous rejoindre. Et d'ailleurs, même ils nous ont regardé d'un air un peu critique, en sachant que les cadres, c'est leur gagne-pain aussi. Qui ne voulaient pas perdre la main, et pour eux, pour les négociations ou l'étape des négociations, ils avaient une place et ils ne voulaient pas la perdre. Maintenant, je n'ai rien à voir, je n'ai aucune critique à faire sur les syndiqués. Il y a beaucoup de syndiqués qui nous ont rejoints. Là, on n'a pas voulu qu'il y avait une vraie défiance et des politiques et des syndicats. Il y a des syndicats, eux,
Fawzi Lelouch, on va juste marquer une courte pause pub et je restez avec nous justement. Je vais vous, on va juste se retrouver dans une poignée de minutes à peine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56 en direct, les informés. Donc on fait défiler nos invités et on parle évidemment de cette réforme qui commence à prendre forme au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, avec, vous savez quoi, ce débat tumultueux qui prend des tournures, parfois évidemment clash sur clash. Fawzi Lelouch, je voudrais vous proposer un extrait notamment d'un député que vous connaissez. Écoutez l'extrait et on revient en parler tout de suite après.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Je crois que vous avez peur de la jeunesse parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazer aux lacrymogènes des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui.
Alors, la déclaration est extrêmement un peu longue. On vous a diffusé un extrait. Ça se passait cet après-midi à l'Assemblée nationale. Fawzi Lellouche, vous, gilet jaune, figure emblématique. Vous, quand vous entendez ça, vous réagissez comment, notamment? Et vous savez quoi? Le député Louis Boyard, hein, parce que s'il s'agit là du député Louis Boyard, qui incite les étudiants de Rennes à bloquer leur fac.
Alors, il faut savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Personne n'a envie d'entendre que la police, que l'État, que les gouvernants se sont servis de la police comme dernier rempart pour garder le pouvoir lors de la crise des Gilets jaunes. Et il faut savoir aussi que les universitaires se mobilisent encore aujourd'hui. Ils ont défilé dans Paris, ils ont fait des manifs sauvages, ils ont rejoint d'autres universités. Ils se mobilisent vraiment, il y a à Toulouse, il y a un peu partout dans les universités, parce qu'ils ont pris conscience qu'on ne peut pas les stigmatiser. On peut pas, c'est pas des enfants. Les universitaires, c'est les futurs travailleurs de demain. C'est notre génération, c'est la suite de notre génération, c'est notre avenir. Ils ont raison de prendre à bras le corps ce problème-là parce qu'il concerne tout le monde. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui ont une science infuse, qui savent, une fois qu'ils sont élus ou à des hautes fonctions, qui prennent des décisions pour l'ensemble des citoyens. Le citoyen, on le concerne jamais. Il a son mot à dire. Et ben, il vous dit comme quoi qu'il n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Et c'est pas la première, les retraites.
Fawzi Lellouche,
tout le monde est concerné.
Fawzi Lellouche, vous êtes présent dans toutes les manifestations quasiment. Vous y serez aussi la semaine prochaine. D'ailleurs, samedi, vous y serez, vous, samedi?
Alors, samedi, c'est important, samedi. Samedi, parce que on a insisté auprès des dirigeants des syndicats pour mettre une date un samedi, sachant qu'il y a énormément de gens dans le privé et qui sont travailleurs la semaine, qui n'ont pas la possibilité de venir exprimer leur désaccord avec les lois et avec les décisions de ce gouvernement. Donc samedi, c'est une grosse journée où les gens vont venir de toute la France. Il faut dire que samedi, il va y avoir un level supplémentaire. Ça, c'est très attendu samedi. Et on a participé, juste pour en revenir à la discussion que nous avions tout à l'heure, aujourd'hui, on est allé au-delà de nos études. Nous, on n'a pas regardé qui nous suit, qui ne nous suit pas. On a compris qu'il était important de le faire ensemble et que tous les citoyens sont concernés aujourd'hui. Et il faut tous dire non à ce gouvernement, à ces décisions qui ne prend pas en compte la pénibilité du quotidien de notre vie. C'est même plus la pénibilité que du travail.
Oui.
C'est la pénibilité de toutes les catégories qu'il peut y avoir, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient d'âge.
Merci, Fawzi Lellouche, figure.
À samedi.
On l'aura compris, effectivement. Merci à vous, Fawzi Lellouche, figure emblématique des Gilets jaunes. Merci et à très bientôt sur notre antenne, hein, d'ailleurs, Fawzi Lellouche.
Jimmy Deligo. J'embrasse tous les autres. Samedi, Fawzi. J'embrasse Jimmy. Je vous embrasse. Et puis, Adil, je t'embrasse.
Et on vous embrasse aussi également.
Et prenez soin de vous. Hein. Écoutez, une chose. Soyez pas étonnés de voir les gens qui expriment leur colère à un moment donné quand les gens qui prennent des décisions pour eux ne les entendent pas, ne les écoutent pas, ne les considèrent pas.
Merci à vous, mon cher Fawzi Lellouche. Merci, à très bientôt. Jimmy Dalidou.
Ouais. Ah non, tout à fait. Moi,
le coup de gueule.
Ouais, tout à fait.
Le coup de colère de Louis Boyard, le député.
Ouais, non, mais après, le problème qui se pose avec la France insoumise, c'est que il faudra qu'il soit clair auprès du peuple travailleur et des Français pour qui il bosse. Soit il bosse pour le peuple travailleur et la plupart des Français qui sont en galère, soit il bosse pour le gouvernement. Est-ce qu'ils sont politiquement parlant une opposition acceptable pour la classe dominante politique au pouvoir, ou est-ce qu'ils veulent véritablement être les représentants du peuple travailleur? Maintenant, s'ils veulent être véritablement les représentants du peuple travailleur, donc de la majorité des Français, oui, effectivement, ils bloquent nos vies, alors bloquons leurs profits.
19h02, si vous venez de nous rejoindre, vous savez, on est avec Mehdi Bellabbas, direction Perpignan. Bonsoir Mehdi Bellabbas.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur politique, vous êtes aussi un acteur associatif. Évidemment, vous avez de nombreuses casquettes. On vous connaît aussi parce que vous êtes Europe Écologie Les Verts, me semble-t-il, toujours, hein, plus que jamais.
Toujours, plus que jamais.
Dites-moi, Mehdi Bellabbès, comment vous observez évidemment la tournure de la situation, ces débats clash sur clash au sein de l'hémicycle, mais surtout cette mobilisation qui s'annonce d'une grande ampleur samedi prochain?
Bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas. Moi, de mon côté et du côté d'Europe Écologie Les Verts, ce qu'on souhaite, c'est que cette mobilisation, elle prenne de l'ampleur. Et on sait que ça va pas être un sprint, hein. Ça va être un marathon. Il va falloir que cette mobilisation elle, s'inscrive dans la durée pour pouvoir faire plier le gouvernement. Avec une inquiétude aussi, c'est que ça va être de plus en plus dur pour ceux qui s'engagent dans la grève, parce que ça touche au revenu des gens, et dans une période où déjà où c'est difficile pour beaucoup de travailleurs, pour beaucoup de salariés, la mobilisation elle va être difficile.
Dites-moi Mehdi Bellabbès, aujourd'hui, vous savez, notamment les débats concernant la réforme des retraites à Klimeloli, puis la députée Nadia tout à l'heure revenait sur la situation dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qu'on leur laisse finalement? Est-ce que vous, qui connaissez très bien les quartiers, est-ce que vous avez le sentiment que la réforme des retraites, évidemment, ça les préoccupe au plus haut niveau?
Moi, j'ai envie de dire malheureusement non, ou pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur des luttes au quotidien, sur déjà sur trouver un boulot, sur améliorer ses conditions de logement, avoir des services publics qui fonctionnent. Donc c'est vrai que pour un certain nombre d'habitants des quartiers populaires, se projeter à 20 ans, 10 ans, 30 ans, c'est très 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 difficile. Et on voit bien, ça nous pose un souci, hein, mais c'est vrai sur le sujet des retraites, c'est vrai sur tout un tas d'autres sujets sur lesquels on peut être engagé par ailleurs. Et on voit bien que nos quartiers ont beaucoup de mal à se mobiliser. Oui. Là, je souhaite, moi, en tous les cas, qu'on y arrive, parce qu'on va on touche au projet de société, à quelle société on veut. Comment on veut vieillir, comment on veut gagner notre vie, comment on accompagne les gens qui ont travaillé toute leur vie, comment on s'occupe de nos anciens. Si demain, nos anciens, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir vivre, comment on va assurer leur quotidien, leurs conditions de vie, leurs conditions de logement, leur accès aux soins? Parce que la retraite, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est pas 1 200 euros. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 1 200 euros? Comment on vit? Comment on mange? Comment on se soigne? Et là, il y a des questions qui se posent quand on voit le recul du service public dans un certain nombre d'endroits. Moi, je vis dans un département aujourd'hui qui est très rural, avec des problématiques de démographie médicale. Tout ça, ça se cumule, ça se percute.
Qu'est-ce que vous avez observé, vous, Mehdi Bellabbès, qu'à Perpignan et dans toute sa région, Perpignan et sa région, est-ce que notamment la mobilisation a baissé ou bien au contraire, elle est là et elle est présente plus que jamais?
Alors là, pour le coup, sur la troisième journée de mobilisation, nous, on était en alerte orange, neige et verglas. Donc, on a eu une vraie baisse de la mobilisation parce que les conditions météo, elles étaient difficiles. Ça n'arrive pas tous les jours, faut le signaler, dans les Pyrénées-Orientales. On a plutôt du soleil. Sur les deux premières journées de mobilisation, on a eu entre 15 et 20 000 manifestants, ce qui est énorme pour une ville, pour un département comme les Pyrénées-Orientales et pour une ville comme Perpignan. Hier, ils étaient que 3000, si j'ose dire, mais c'est déjà beaucoup, vu les conditions climatiques qu'on avait, parce qu'il a fait vraiment très froid, il a beaucoup plu. Je crois qu'à Paris, vous avez eu du beau temps pour la manifestation.
Du beau temps, mais il faisait froid aussi.
Mais pour autant, la mobilisation, elle reste intacte. Moi, je croisais les collègues syndicalistes et les collègues qui sont engagés dans les partis politiques aussi. On reste déterminés à poursuivre la mobilisation. Et samedi, là, on a encore une journée de mobilisation, samedi prochain. Oui. Et je pense que cette journée va être une belle journée de mobilisation. Il y aura beaucoup de monde parce que les conditions météo seront beaucoup plus favorables.
Merci Mehdi Bellabbès d'avoir été avec nous depuis Perpignan. Vous êtes un acteur politique, Europe Écologie Les Verts, mais également aussi associatif. Merci Mehdi Bellabbès, c'est au plaisir.
À bientôt Adil.
À bientôt. Justement, Jimmy Dalidou, vous représentant CGT, samedi, ça se prépare comment justement? Qu'est-ce qui est des stratégies? Quel est le mot d'ordre? Qu'est-ce que vous dites avec vos camarades? Quels sont les éléments de langage, etc.?
Bah, vous savez, dans un premier temps, quand il y a plusieurs jours de mobilisation comme ça, de lutte, on prend un petit peu le pouls de ce qui se passe dans les AG. Dans les entreprises, ça tourne, les syndicalistes, alors mandatés ou pas mandatés, on fait par exemple des tournées, on fait des tournées, on discute avec les gars, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Il y a des échanges de téléphone, des textos, ça discute beaucoup entre les travailleurs et les syndicalistes. Et
qu'est-ce qu'ils se disent?
Quand
ça discute beaucoup, c'est quoi?
On leur demande, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire? Si on part sur une reconductible, est-ce qu'on part en grève? Est-ce que tu suivrais, par exemple, etc., etc.
La majorité dit quoi?
Voilà. La majorité disent qu'ils partiraient en reconductible. Le problème qui se pose, encore une fois, on en revient au nerf de la guerre, qui est la question financière. La plupart des travailleurs, c'est pas qu'ils ne veulent pas partir en reconductible et en lutte. J'ai envie de vous dire que vivre est une lutte, en fait. Donc si vivre est une lutte, lutter un peu plus pour vivre ces derniers jours décemment, on a envie de vivre encore plus. Vivre dans le système, c'est une lutte. Mais le problème, c'est que quand vous perdez 100 balles pour une journée, c'est énorme. Surtout quand vous touchez un SMIC. Le cheminot qui rentre en début de carrière, il est au SMIC. Et donc, ensuite, il y a les...
Ça complique la tâche.
Ah oui, non, mais ça complique beaucoup la tâche. Parce que si vous faites deux journées de grève, c'est 200 balles en moins. Et quand vous touchez 1300 balles, il vous reste 1100 euros. Sachant que 1350 euros, le SMIC, ça suffit pas déjà à la base. Donc ensuite, on prend un peu le
compte
de ce qui se passe dans les AG. Donc il y a des votes qui sont faits dans les AG. Il y a plusieurs AG dans les différentes localités. C'est centralisé. Et ensuite, une fois que c'est centralisé, avec tous ces éléments, on sait que si on peut y aller ou pas. Et par rapport à ça, on a ensuite des process dans les entreprises. Par exemple, à la SNCF, il y a ce qu'on appelle des DCI, c'est-à-dire des rencontres entre la direction et les représentants des salariés qui permettent de déclencher les préavis de grève. On déclenche les préavis de grève pour que les salariés puissent être couverts. Et puis là, c'est ce qu'on a fait.
Comment ça s'annonce, Jimmy Dalidou, samedi prochain?
Samedi, ça s'annonce relativement suivi. Hein. Ça s'annonce suivi.
C'est quoi, c'est familial?
Parce qu'en fait, on a opté un petit peu pour la stratégie des gilets jaunes, si vous voulez. Samedi,
c'est-à-dire
la semaine, tout le monde travaille. Donc, certains font grève, d'autres non. Mais dans tous les cas, samedi, la plupart des Français seront à la maison et ils seront pas au boulot. Ils peuvent aller dans la rue. On n'a pas appelé à étendre les préavis de grève au niveau des transports, en tout cas pour pas que les Français soient trop impactés par leur départ en vacances. Mais par contre, on appelle au rassemblement dans la rue, aux manifestations.
Est-ce que vous attendez avec un nombre aussi important que celui de mardi 19 janvier?
Vous savez ça, on peut pas trop le prévoir.
On parle de 2,5 millions selon la CGT.
On peut pas trop anticiper parce que j'ai envie de vous dire que si on pouvait anticiper au niveau des chiffres, on aurait d'ores et déjà gagné en fait.
Qu'est-ce que vous captez, Jimmy Dalidou?
Les travailleurs sont en colère.
Ouais, c'était ma question justement. Ils sont en colère. Pourquoi? C'est la réforme des retraites, c'est l'inflation, c'est le prix, c'est la hausse du quotidien. C'est quoi précisément?
En fait, il n'y a pas d'éléments précis. On va dire que c'est une combinaison de plusieurs éléments. Tout à l'heure, le représentant le disait. C'est-à-dire la retraite, on a dit que c'était une réforme mère, parce que c'est la réforme centrale, parce qu'elle touche au nerf de la guerre, au temps de travail. Qui dit temps de travail, dit argent. Donc c'est un petit peu, c'est l'axe central pour s'enrichir toujours plus. C'est l'axe, c'est le temps de travail. Mais en fait, on constate que ces dernières décennies, les conquêtes sociales, on a souvent parlé d'acquis social. Moi, j'aime pas trop ce terme. Je préfère parler de conquêtes sociales. Si vous regardez, si vous analysez ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1936, après le Front populaire, lorsque le peuple travailleur avait acquis des conquêtes sociales, les congés payés, etc., etc., le droit de grève, les congés payés, la sécurité sociale, etc., les grandes nationalisations, etc. Si vous observez un petit peu ce qui s'est passé, au fur et à mesure du temps, la classe sociale dominante, en fur et à mesure des décennies, n'a pas arrêté de tout vous reprendre ce qu'elle a été dans l'obligation de donner parce qu'il y avait des luttes. Donc les conquêtes sociales que le peuple travailleur avait décrochées, en fur et à mesure du temps, tout passe à la trappe. Et donc là, c'est la retraite, c'est une finalité. Alors c'est pas le final, hein. Attention, parce qu'ils penseront encore, ça va être autre chose ensuite. Ensuite, une fois qu'ils auront augmenté le temps de travail, parce que faire travailler les Français plus longtemps, c'est tout simplement augmenter le temps de travail. Si vous augmentez le temps de travail, vous augmentez l'argent, et ensuite vous touchez à la production. Donc ils vont faire quoi après? Ils vont changer les process de production, ils vont demander à ce que la journée passe de 8h à 12h. On va revenir dans la situation de l'Angleterre dans les années 1830, avec des travailleurs qui travaillent 12-13 heures par jour. Donc à un moment, il faut se poser cette question-là. Il y a des conquêtes sociales, mais elles ont été arrachées par le peuple travailleur parce qu'ils étaient en lutte sur les barricades.
Je le sollicite, pardon, nos auditeurs, si vous voulez intervenir, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, avec ce qui se dit, notamment le représentant CGT Jimmy Dalidou, mais avec ce que vous entendez. Et puis, est-ce qu'il faut poursuivre les grèves? Est-ce qu'il faut bloquer? Moi, j'ai deux questions à vous poser, chers amis auditeurs, partout en France. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite au standard. Plutôt, Anthony vous attend au standard. La question, évidemment, est très simple. D'abord, premièrement, est-ce que vous êtes pour poursuivre ces mouvements de grève? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes pour le blocage du pays? C'est très important parce que ce qui est en train de se dérouler, évidemment, c'est un enjeu majeur concernant donc l'exécutif, le gouvernement. Ça, ils l'entendent, ça, l'exécutif, le gouvernement? Elle l'entend, Elisabeth Borne? Elle observe, elle entend, elle regarde? Est-ce qu'elle craint tout ça?
Les mouvements sociaux, etc.
Oui.
Non, la question qui se pose, effectivement, je pense qu'ils le craignent sans le craindre, en fait. Oui. Ils le craignent, mais ils savent que de toute façon, ils ont un service d'ordre qui est bien dressé. Ils feront ce qu'on leur dit de faire. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Hein. Si un mouvement social pose un véritable problème politique, ils donneront des ordres et ils lanceront des LBD. Vous voyez, on l'a vu pendant les GJ. Le problème, c'est qu'ils le craignent, mais le problème qui se pose, c'est qu'encore une fois, derrière, il y a des multinationales, il y a des entreprises qui attendent de spéculer sur les retraites privées, sur les retraites, les agences privées de retraite. Et c'est ça qu'ils ont besoin de mettre
en
application.
Les auditeurs ont la parole. Jingle. Ah ben, il n'est pas là, jingle. Anan de Créteil, bonsoir Anan.
Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie infiniment. Welcome, bienvenue. Qu'est-ce
merci,
que vous dites,
merci.
Vous
merci. Écoutez, je suis en train de vous écouter, j'avoue que je viens de vous prendre au vol.
Oui.
Et puis, franchement, en toute sincérité, je suis entièrement d'accord sur le fait de dire que les droits sociaux, en tout cas les droits à la grève, ont été saccagés. Si je puis dire le terme ainsi, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, j'ai l'impression que plus on fait grève, moins on se fait entendre, ou du moins le droit de grève n'existe pas. Bah écoutez, on vous a
vous
entendu,
êtes syndicaliste
vous
vous-même
grève, mais tant... Pardon ?
Vous êtes syndicaliste vous-même ?
Je ne suis pas syndicaliste. Je vous dis en toute sincérité, je viens de commencer à travailler il n'y a pas très longtemps. Je perçois un SMIG, mais c'est un choix personnel de faire ça. Mais en toute sincérité, je suis de tout cœur, je dirais. Et
vous soutenez le mouvement ?
Mais entièrement, puisque où va la France? Où va la France si on n'a plus le droit de parler et si en fait notre parole ne se fait pas entendre? Ou si les syndicats, les différents syndicats qui nous représentent ou qui représentent les travailleurs français ils parlent pour rien. Mais non, on n'est pas dans un pays où les travailleurs parlent pour rien. Donc en toute sincérité, moi je soutiens à fond le mouvement et j'espère que les droits qui nous sont attribués pour faire grève et qui ne soient pas boycottés par le gouvernement soient écoutés tout simplement.
Oui. Merci Anan de Créteil d'avoir réagi sur notre antenne en direct. Merci à vous et infiniment et merci pour votre fidélité. 01 53 48 3000, vous continuez de nous appeler, vous continuez évidemment de venir nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, est-ce que vous le soutenez, est-ce qu'ils doivent continuer l'intersyndical justement, et puis surtout est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de bloquer le pays, de le paralyser. À tout de suite, on se retrouve juste après la dernière pub.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés avec Jimmy Dalidou, représentant CGT, et auteur également, qui est sur le plateau. Avec nous, par téléphone, notamment dans Les Informés, Thierry Vincent, qui est journaliste. Bonsoir Thierry Vincent.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Thierry Vincent. Thierry Vincent, dites-moi, vous avez régulièrement, évidemment, apporté votre décryptage concernant ces mobilisations. Aujourd'hui, on a vu le débat s'installer au sein de l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez le sentiment, mon cher Thierry Vincent, que l'exécutif est perturbé par tout ça?
Ah bah c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Enfin, il est pas. La réforme va peut-être passer, à mon avis, en force. Ils vont peut-être. Enfin, ça va peut-être finir par passer. En tout cas, ceux qui manifestent et qui sont contre, dont je suis d'ailleurs, peuvent le craindre. Mais il n'est pas très bien quand même, le gouvernement. Hein. On voit bien qu'il y a que 180 ou 185 députés là qui se disent prêts à voter à la réforme en l'état. Et beaucoup, apparemment, ont des pressions de leurs électeurs dans leur circonscription. C'est mal emmanché, cette affaire. Puis le mouvement est quand même massif, enfin très massif même. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y a eu un mouvement aussi massif, unité syndicale, très forte majorité française qui qui approuvent le mouvement, voire qui veulent...
Vous, journaliste Thierry Vincent, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Est-ce que c'est plutôt le débat qui s'installe désormais à l'Assemblée nationale, avec évidemment ces passes entre la NUPES, Renaissance, et Elisabeth Borne, on l'aura compris, hein, elle veut aller chercher évidemment la majorité auprès des Républicains, ou est-ce que c'est la rue, la forte mobilisation, les syndicats, c'est quoi?
C'est la rue, parce qu'en vrai... soyons sérieux, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vrai débat.
Alors que c'est là que ça se passe, mon cher Thierry Vincent.
Ça devrait, mais de fait, oui, le point qui est critiqué, c'est le passage de 62 à 64 ans. Le reste, je crois que les gens, ça ne les intéresse pas beaucoup. C'est ça. Ce contre quoi sont les gens, ce contre quoi ils se mobilisent. À partir du moment où vous dites, ce point-là, il n'est pas négociable, d'autres choses, oui, mais pas celui-là, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Donc, ça va être la pression de la rue. Enfin, pour moi, il n'y a pas de vrai débat à l'Assemblée nationale. Puis on est dans des trucs un peu grand-guignolesques. Il n'y a pas de débat de fond.
Ma dernière question, Thierry Vincent. Samedi prochain, on parle de nouveau d'une grande mobilisation. C'est votre cas? Vous avez, quelles sont les informations que vous avez, vous, pour samedi prochain?
C'est un peu là, la température comme ça au doigt mouillé. Je pense qu'il y aura probablement plus de gens samedi parce que c'est pas un jour de semaine. Alors je crois qu'il y a le début des vacances scolaires dans certaines zones, peut-être, je sais plus. Mais là c'est vrai que mardi, il y avait un peu moins de monde. Les deux premières, il y a eu beaucoup de monde. La deuxième plus que la première, là ça a un peu baissé, semble-t-il. Un petit peu baissé. Mais moi je connais beaucoup de gens qui se sont dit mardi, ça fait trois fois de suite que grève, que pendant la semaine, etc. Donc on veut plus. Et qui se réserve pour samedi. Je pense que samedi, ça va être je pense que ça va être plutôt un succès, oui.
Un succès. Merci Thierry Vincent d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste, je le rappelle. À bientôt sur notre plateau. Merci Thierry Vincent.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Jimmy Dalidou, vous savez, j'aimerais vous faire écouter autre sujet sur notamment la retraite, mais Katnas, le député, je ne vais pas revenir évidemment sur l'affaire Katnas, mais qui a été chahuté lors de sa première prise de parole. Vous savez, depuis sa condamnation. Écoutez.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues.
Justement, il était obligé d'interrompre, vous vous rendez compte, le président de la séance. Il était obligé d'interrompre, justement, alors qu'il a été chahuté par ses camarades, par ses collègues. Il n'a pas pu prendre la parole, le député Katnas.
Ouais, au moins, ils auraient pu au moins le laisser parler et voir ce qu'il avait à dire. Je ne pense pas que ce soit un comportement responsable de la part de représentants de la nation, entre guillemets. J'ai bien placé des grosses guillemets, représentants de la nation.
Au moins, c'est pas normal.
Parler. Non, on le laisse parler. Ça se trouve, il est politiquement parlant, c'est un homme qui a quand même une certaine expérience politique, même si je suis pas d'accord avec la position de la France insoumise. Mais voilà, ils auraient dû au moins le laisser parler.
Au moins le laisser parler. Cette grève, justement, on arrive au terme de cette émission, ça passe vite, moi j'ai pas vu le temps défiler comme ça. J'aimerais revenir sur la journée de mobilisation, vous savez, qui aura lieu après samedi. Vous avez programmé d'autres journées de grève, notamment.
De toute façon,
on parle de toute une série de mobilisations là avec l'intersyndicale qui veut intensifier la contestation.
On va y aller crescendo. Si le peuple travailleur suit, encore une fois, on prend le pouls c'est le peuple travailleur qui décide, les travailleurs décident s'ils veulent continuer à faire des grèves perlées, on va dire ça comme ça, deux journées par semaine, on ira. Tant qu'il y aura des AG, tant que le peuple travailleur se réunira dans les AG et qui décidera dans les AG et qui votera dans les AG la poursuite du mouvement, encore une fois, le syndicaliste, il n'est pas là pour contrôler les travailleurs, contrairement à ce que pensent certains politiciens. On est là pour accompagner la revendication des travailleurs.
Le porte-parole, Olivier Véran, invite les syndicats à ne pas bloquer le pays. Vous dites quoi?
Moi, je leur dis que ça fait belle lurette que ils bloquent nos vies. Bloquons leurs profits. De par leur. Pour augmenter.
Il appelle à la responsabilité des syndicats.
Je vous rappellerai quand même que.
Il appelle à la responsabilité des syndicats.
Mais en même temps, Total a fait 20 milliards de profits, BNP a fait 10 milliards de profits et il demande de travailler plus longtemps. Alors, qui sont les plus responsables dans ce pays? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils bloquent nos vies, bloquons leurs profits.
C'est comme ça que vous voyez les choses?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, je pense qu'il faut bloquer le pays et il faut effectivement il faut que le peuple français redevienne digne. Le peuple français est un peuple digne, qui redevienne digne et être, parce que ça fait des années que le peuple français est martyrisé, maltraité, qu'on le marche dessus, donc qui redevienne digne. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de reprendre la rue, reprendre le contrôle des process de production, parce que dans les productions, vous mettez Carlos Ghosn en prison. Les salariés continuent à travailler, les voitures continuent d'être produites. Vous enfermez les salariés, il n'y a plus de voitures produites.
Monsieur le représentant,
qui crée la richesse dans ce pays, oui, ce sont les salariés.
Monsieur le représentant de la CGT, SNCF, justement, Jimmy Dalidou, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent ce soir, pour samedi prochain notamment?
Je leur dis que je leur donne rendez-vous indépendamment de leur de là où ils travaillent, que ce soit public, privé, quel que soit l'endroit où vous vous situez, on se donne rendez-vous samedi dans la rue, on frappe fort et on démontre que cette retraite, on en a marre, que la vie chère, on en a marre, que les salaires de merde, on en a marre, que les factures qui augmentent, on en a marre, que lorsqu'on va faire...
Mais tout ce que vous dites, ça, d'un coup de baguette magique, l'exécutif, le gouvernement ne peut pas régler tout ça. C'est pas,
non, mais en même temps, il est fait pour ça. Hein.
Oui.
Le gouvernement, il est pas fait pour. Il est à la base, le gouvernement, il est pas fait pour donner des ordres et donner des directives au peuple. Il est là pour mettre en application ce que le peuple décide. C'est pas au peuple de subir les directives d'une bande de politiciens, d'un gouvernement qui représente même plus les intérêts du peuple, qui représente les intérêts d'une classe sociale dominante, parasitaire, propriétaire des moyens de production. Ils sont là pour mettre en application ce que le peuple décide de faire. Là, on a renversé les rôles. Maintenant, c'est le peuple qui a peur du gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait avoir peur du peuple, parce que le gouvernement, à la base, il est au service de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation, de l'intérêt du peuple, et il ne devrait pas être au service des intérêts d'une classe sociale dominante, les 1% qui s'enrichissent toujours plus, en exploitant toujours plus la force de travail française.
Merci infiniment Thierry, Jimmy Dalidou. Merci Jimmy Dalidou.
Merci.
Représentant CGT, auteur.
Toujours.
Voilà, j'ai compris évidemment, principalement. Merci à tous celles et ceux qui nous suivent, vous savez quoi, de plus en plus nombreux chaque soir. Merci à vous et merci surtout pour votre fidélité. À la réalisation, c'était Anthony. Anthony, à demain.
À demain, on ne bouge pas, même heure, même adresse.
Ouais, qui dégaine comme Lucky Luke.
Ah bah ça, tu l'as pas oublié. Hein.
Ouais, c'était sport ce soir. Hein.
Ah, c'était assez sportif, mais j'aime ça.
Vous aimez ça, tu aimes ça, effectivement. 19h30, merci à vous tous de nous avoir suivis. Bilal Nenman, 20h, 21h. Vanessa, 21h.
23h.
23h, absolument. Quant à moi, à demain, vous savez quoi, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà. Émission spéciale, oui, quartier populaire. Avec du beau monde. Soyez présents parce qu'il y aura du beau monde demain. Beaucoup d'invités au téléphone, sur plateau, énormément. On a décidé, sur deux jours, jeudi et vendredi, de s'intéresser au quartier populaire. Donc, émission spéciale quartier populaire avec tous les sujets qui nous concernent. Vous verrez demain, ça va être évidemment riche. Portez-vous bien, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.